On n'est pas du monde, version 15 minutes, avec Antoine Malenfant et son invité.
Aujourd'hui à l'émission, on fait le point sur la question du genre et du sexe avec notre collaboratrice Ariane Beauferré. Vous l'aurez peut-être remarqué dans l'édition d'hiver du magazine Le Verbe, on aborde la question du genre, du sexe, de la différence et de la complémentarité entre les hommes et les femmes. Et ce dossier-là s'ouvre sur un texte. C'est un exercice qu'on fait pas souvent au Verbe, mais là, on croyait que c'était nécessaire d'aborder la question sous l'angle de la science. Et pour plonger dans ce dossier-là, on a demandé à Ariane Beauferré de nous faire une sorte de revue de la littérature scientifique sur la question du genre et du sexe. Et elle est avec nous aujourd'hui pour nous en parler de son article. Mais on va aller un peu plus loin, je pense, dans les questionnements que ça suscite, cette question-là du genre. Bonjour Ariane.
Hello.
Tu vas bien?
Oui, ça va bien.
Oui. D'un point de vue, d'abord, on va y aller assez rapidement parce qu'il y a beaucoup de matière, évidemment, à discussion. Là, d'un point de vue strictement biologique, il faudrait que tu nous aides un peu, parce que tu es biologiste toi-même, à différencier un homme d'une femme. Bon, c'est sûr que ici autour de la table, c'est assez clair, on le voit bien, tout ça, mais est-ce qu'il y a des différences intrinsèque, biologique,
oui,
évidemment.
Il y a plusieurs choses qu'on peut prendre en compte. Ce qu'on prend communément en compte dans toute la société, quand on parle de homme ou femme, on va vous parler de l'ADN puis des chromosomes, tout le temps. Si c'est aussi utilisé notamment pour des compétitions comme les Jeux Olympiques ou ce genre de choses. Si vous portez deux chromosomes X, vous êtes une femme. Si vous portez chromosomes X et Y, vous êtes un homme. Et c'est normal que tout le monde utilise cela parce que dans la majorité des cas, la très grande majorité, c'est 99,9% des cas, c'est fiable. Votre corps va être masculin si vous êtes XY et féminin si vous êtes XX. Et il y a un 0,01% des cas restants où c'est pas suffisant parce que c'est pas juste le chromosome qui va déterminer si on est un corps féminin ou masculin, c'est les gènes. Avant tout. Et parfois, les gènes, ben, ils ne sont pas forcément tous placés correctement. On a des déficiences. Ils ne sont pas forcément sur le chromosome X et Y. Ce n'est pas seulement ces chromosomes-là qui vont déterminer si on est un homme et une femme. Il y a aussi d'autres gènes ailleurs. Le gène, c'est une recette, souvent, qui va permettre de produire des protéines, mais pas seulement. Les gènes, ils interagissent entre eux. Parfois, on va avoir le gène, mais l'ADN, il est tellement replié sur lui-même dans nos cellules qu'il n'est pas capable de l'exprimer, par exemple. Ça peut être une déficience. Parfois, on a absence du gène. Il y a un exemple, par exemple, il y a des femmes, qui sont physiquement des femmes, qui parfois même se rendent absolument pas compte de leur déficience toute leur vie. Ou alors, elles vont manquer un organe, l'utérus, pas avoir de menstruation, mais elles portent les chromosomes X et Y.
Tu parlais, Ariane, des gènes qui sont comme une recette. Donc, si je comprends bien, il peut y arriver qu'il manque une page ou que ça soit mal écrit ou gribouillé dans cette recette-là.
Et donc, quand il manque quelque chose, par exemple, pour les hommes qui sont X et Y, normalement, pour la majorité des personnes qui sont X et Y, s'il manque un gène, par exemple un gène qui est bien connu qui s'appelle SRY, bah, malgré que cette personne soit porteuse du X et Y, qui devrait entraîner la masculinisation de l'embryon, eh bien, ces personnes deviennent des femmes, sont des femmes parce qu'il leur manque ce gène-là et développent un corps féminin. Et la majorité d'entre elles ne se posent pas de questions même, et à cause de ce gène-là manquant. Dans d'autres cas, ça peut être l'inverse aussi. Ça va être des hommes qui vont porter deux chromosomes X. Parce que là, le gène SRY, il s'est posé sur un chromosome X. On ne comprend pas tous pourquoi ça se fait comme ça, mais ça arrive.
James?
Donc, c'est ce qui explique, par exemple, pourquoi une personne, mettons, un homme ou une femme, pourrait avoir de l'air un peu plus féminin ou masculin, avoir des attributs du sexe opposé le plus marqué?
Ça peut arriver, mais dans certains cas, c'est absolument pas visible. Okay. Mais dans d'autres cas, ça peut entraîner le développement de caractéristiques secondaires, donc des pilosités plus importantes, une voix plus grave. Et donc, dans ces cas-là où les caractéristiques secondaires du corps, ou même parfois, dans certains cas encore plus importants, on parle d'hermaphrodisme par le passé. Aujourd'hui, on va parler d'intersexuation. On peut avoir différents organes des deux sexes qui se retrouvent chez une personne. Et là, ça peut entraîner des gros problèmes d'identité sexuelle parce qu'il faut savoir se retrouver, savoir qui on est, en fait.
Ariane, dans les cas où il y a une incohérence entre les gènes de la personne ou en fait entre ses chromosomes X, Y, ou bon, qu'il soit homme ou femme, ça doit être très difficile à porter, cette différence-là.
Oui, il peut y avoir des cas où c'est vraiment très difficile. Comme je le disais, quand les caractéristiques secondaires masculines ou féminines se développent, une femme qui va être très, très masculine ou qui porte des organes de l'autre sexe, on peut avoir un trouble identitaire et ça peut mener même à ce qu'on appelle, et on peut le diagnostiquer, une dysphorie de genre ou incongruence de genre. Par exemple, la personne va s'affirmer, se sentir appartenir à l'autre sexe ou à aucun sexe, quand on le compare à son sexe biologique, par exemple. C'est pas seulement les personnes qui sont intersexuées qui peuvent ressentir ça. Ça peut être aussi une personne qui n'a pas de déficience génétique particulière ou pas de débalancement hormonal non plus particulier. À partir du moment où on s'identifie de façon prolongée à l'autre sexe ou à aucun sexe, eh bien on peut dire qu'on souffre de cette dysphorie de genre.
Ça touche quelle partie de la population?
C'est vraiment très faible. C'est 4 à 5 personnes sur 100 000.
OK, mais... donc même pas un centième de pourcent.
Oui, c'est tout petit. Okay.
François?
Mais c'est là, je suppose, qu'intervient à savoir, est-ce que c'est un construit social? Ou non?
C'est une grande question.
Est-ce que les chromosomes et les gènes influencent la structure du cerveau et la façon de se comporter?
Alors, il y a eu quelques études là-dessus, mais ça reste quand même assez marginal. Il y a quand même des chercheurs qui travaillent là-dessus, mais pas tant que ça. Et on ne comprend pas, en fait, l'origine vraiment de la dysphorie de genre. Parce que elle arrive chez des personnes qui sont très différentes. Elle peut arriver chez des enfants, chez des adolescents, mais aussi chez des adultes. Il n'y a pas de schéma, en fait. C'est difficile à comprendre, vraiment.
Et si je comprends bien, l'accent ou le travail n'est pas tant mis sur la quête ou la compréhension de cette dysphorie-là, mais plutôt sur les traitements. Et c'est, médiatiquement, on le constate d'ailleurs, il faut absolument intervenir pour traiter. C'est quoi les options qui s'offrent aux personnes qui vivent ça?
On s'attarde beaucoup plus sur les traitements des personnes qui ont une dysphorie de genre. Pourquoi est-ce qu'on veut s'attarder absolument sur les traitements? Déjà parce que c'est difficile à vivre. Ça, il faut vraiment se le rendre compte. C'est quand on a une incohérence entre son sexe biologique et celui auquel on ressent appartenir, eh bien, on est plus sujet à la dépression, à l'anxiété, à l'anorexie, et finalement même plus au suicide que la moyenne de la population. Donc, les psychologues, les psychiatres et toutes les personnes qui interviennent auprès des transgenres veulent qu'ils se sentent mieux, en fait, pour éviter des suicides, pour éviter l'anorexie et ce genre de choses. Et donc, on réfléchit beaucoup moins à l'origine, finalement, de la dysphorie, mais plus au traitement, justement.
Anne, tu as une question pour Ariane?
Est-ce que ça pourrait expliquer, à un moment donné, un enfant garçon ou un enfant fille qui se sent de l'autre sexe, qui n'est pas bien dans son corps? Est-ce que ça commence aussi jeune que ça?
Ça peut commencer très jeune. Après, il y a deux écoles de pensée qui s'opposent là-dessus. C'est que oui, il peut y avoir des enfants qui vraiment... C'est pas des enfants comme un garçon manqué, par exemple. Moi, quand j'étais jeune, je m'habillais comme un garçon, puis je m'identifiais un peu plus au garçon, mais je disais pas « je suis un garçon ». Alors que l'enfant qui souffre, on va dire, de dysphorie de genre, il dit « je suis une fille ». Et là, il y a plusieurs écoles. Par le passé, il y en avait une troisième, mais je m'attarderai pas beaucoup là-dessus. Aujourd'hui, comme on veut intervenir, il y en a une école d'intervention qui dit « ce que ressent cet enfant, c'est la réalité ». C'est ce qu'il ressent, c'est ça qui compte. On va le faire explorer son genre et on va faire en sorte que s'il se sent fille, finalement, il soit fille. Et donc, on va lui faire changer de nom, on va lui faire habiller en fille si c'est ce qu'il veut et agir comme ça. Il y a une deuxième école qui...
Et là, excuse-moi, je t'interromps, mais on parle d'un enfant, mais s'il s'agit d'un adolescent, ça va plus loin que ça.
Adolescent, on va carrément bloquer la puberté.
Voilà.
Il y a des traitements bloquants où on considère, si c'est un garçon biologique qui se sent fille, qui tient vraiment à être fille et femme, eh bien on dit, ok, ce que tu ressens, c'est vrai, on le croit, et donc on va bloquer ta puberté pour éviter que des caractéristiques secondaires masculines n'apparaissent.
Et cette école-là de pensée, le haut du pavé, là, ça représente la vaste majorité des intervenants.
Ça dépend des pays. Okay. Ça dépend des pays parce que on s'est rendu compte, dans plusieurs études, notamment Pays-Bas, que chez les enfants qui présentaient cette dysphorie de genre, il y en avait énormément qui ne revenaient pas en consultation à l'adolescence. Et ils y ont conclu que la dysphorie pouvait tout simplement disparaître avec la puberté. Donc si on la bloque, est-ce qu'on permet la persistance de la dysphorie? Ou alors on laisse la puberté arriver et finalement dans 80 à 90% des cas, eh bien il n'y a plus de dysphorie de genre.
Finalement, comme si la période précédant la puberté ou le début de la puberté était une période de flottement ou d'identification du
ça,
genre.
Je ne saurais pas le dire.
Peut-être, en tout cas dans l'hypothèse qui est soulevée par ces chercheurs-là, c'est que la puberté est le médicament naturel finalement.
C'est ça, c'est ce qu'ils vont dire et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de chercheurs qui vont dire on est contre de bloquer la puberté, mais on va vouloir laisser l'enfant vivre sa puberté et son adolescence. Et si ça persiste, eh bien là, peut-être proposer
des interventions. Et ça, c'est la deuxième école de pensée.
C'est la deuxième école de pensée.
Okay.
Il y en avait une troisième par le passé qui était complètement à l'opposé et qui allait dire « ce que tu ressens n'est pas vrai, ça n'existe pas, tu dois apprendre à vivre dans ton corps ». Mais le problème, c'est qu'elle n'accueillait pas le ressenti de cette personne du tout. Et ce qui manque aujourd'hui, c'est une quatrième école qui permet finalement de dire « Regarde, tu as un corps d'homme, ou tu as un corps de garçon si on parle à un petit garçon, et je comprends, j'accueille que tu ressens autre chose. Qu'est-ce qu'on peut faire avec ça? Est-ce qu'il faut absolument faire des chirurgies et des traitements qui vont te rendre infertile ou qui vont baisser ta fertilité, qui vont baisser ton espérance de vie, qui vont faire en sorte que peut-être ça va briser, parce que ce que je vous dis là, c'est pas moi qui réfléchis, c'est vraiment, ça a été montré. Ça brise des liens sociaux, ça empêche d'avoir les emplois qu'on veut, ça va briser souvent les liens familiaux, parce que c'est toute une différence. Quand vous étiez un homme, vous devenez une femme. Et souvent, la personne est obligée de recréer complètement son environnement social. Ça ne se fait pas sans bris.
Et évidemment, une des façons les plus simples de recréer cet environnement social-là, c'est en allant vers d'autres personnes qui vivent le même problème,
oui,
qui vont comprendre.
Souvent, ces personnes-là vont se rapprocher d'autres personnes transgenres ou d'autres personnes plus marginales, qui ne sont pas forcément transgenres, mais qui vont, par exemple, s'identifier à aucun sexe ou ce genre de choses. Parce qu'il y a aussi une grande pensée actuelle où qu'on serait sur un grand continuum de genre, qu'il y aurait, oui, on ne peut pas nier qu'il y a des hommes et des femmes, parce qu'on ne peut pas fermer les yeux sur la réalité physique, mais qu'on serait tous quelque part sur une espèce d'échelle horizontale, plus ou moins homme, plus ou moins femme, et puis voilà.
On y reviendra à ça, on reviendra aussi au ressenti, Ariane, mais James, tu avais une question?
Oui, tu parlais des conséquences des interventions médicales. Là. J'imagine que tous les traitements d'hormones aussi ont des conséquences là, sur le cerveau. Quand on se met à jouer avec le corps humain comme ça, les hormones,
oui,
ça doit
sûr.
Avoir des...
Après, on ne donne pas des traitements hormonaux. Il y a toujours une balance coût-bénéfice. Si le traitement hormonal fait en sorte que la personne psychologiquement se sent mieux, bon, même s'il y a des conséquences après physiques, on va considérer que ça en vaut la peine. Après, ça n'a pas été montré que ces traitements hormonaux sur le long terme étaient la cause de l'espérance de vie plus faible, par exemple. Faut dire que c'est relativement récent. On n'a pas beaucoup de personnes transgenres, par exemple, qui ont 80 ans, hein, donc, ou qu'on a pu étudier sur toute leur vie. Donc, c'est sûr qu'il y a une part un peu expérimentale. Après, les traitements, c'est possible aussi de les arrêter ponctuellement si ça ne fonctionne pas, de les changer. Il y a des personnes, aux États-Unis par exemple, les femmes qui deviennent des hommes finalement, qui font une chirurgie, parce que c'est une chirurgie plastique. Hein. On ne peut pas réellement changer de sexe. On ne peut pas porter un enfant si qu'on est né homme. Une femme, même si elle se fait modifier ses organes génitaux, elle ne peut pas vivre une érection comme un homme. C'est de la chirurgie qui est principalement plastique. Et avec les hormones, on peut faire apparaître des caractéristiques secondaires, donc pilosité, musculature différente. Mais ça reste plastique et ça peut faire vivre des conséquences je dirais pas des maladies, mais des conséquences secondaires, mais qui vont être considérées moins graves que de ne pas changer de sexe et que la personne, finalement, finisse par se suicider, par exemple.
Et ces chirurgies-là, Ariane, sont pas anodines. C'est-à-dire, c'est souvent plus... c'est réitéré, c'est-à-dire les gens doivent se...
Oui, alors les personnes qui se définissent transgenres décident pas toutes de faire des chirurgies. Il y en a qui vont décider de ne pas en faire du tout et de simplement gérer leurs troubles, par exemple, si c'est une femme, en s'habillant en homme. Ou si c'est un homme, on va parler un peu de travestisme, mais ça va plus loin que ça. Ça va être des personnes qui vont vraiment s'identifier à l'autre sexe, mais qui ne sont pas prêts ou qui ne veulent pas des conséquences des chirurgies. Mais on arrive aussi à certains cas qui sont problématiques. C'est que c'est arrivé en Ontario plusieurs fois, où c'est peut-être plus facile qu'au Québec de changer de sexe sur le registre civil. Où on a des hommes qui vont se changer dans les vestiaires des femmes. Par exemple, des personnes qui sont... physiquement homme, mais qui s'identifient femme, mais qui n'ont absolument pas changé leur corps et qui se promènent tout nus dans des vestiaires devant des petites filles. Donc là, c'est problématique parce que pour les petites filles, le rapport au corps, évidemment, il est évident et il y a un impact. Mais comme on veut absolument que ce soit le sexe intérieur, le genre intérieur ressenti qui prenne le dessus sur la réalité physique, eh bien, on nie finalement cet effet de la réalité physique qu'il peut y avoir sur les autres.
C'est assez impressionnant, justement, la préséance ou l'importance qu'a ce ressenti-là dans la littérature, mais aussi dans ce qu'on constate médiatiquement. On dirait que c'est à force de loi, ce que sentent les personnes.
Oui, c'est vraiment... C'est pas quelque chose qui est prouvé en tant que tel. C'est pas quelque chose... Il y a eu des études et où on s'est dit « Ah oui, vraiment, comment définir le genre ? C'est ce qu'on ressent. » Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Mais on a des chercheurs et des personnes qui interviennent auprès des transgenres. Souvent, ils font les deux de toute façon. Qui, vraiment, c'est purement idéologique. Dans leur publication, c'est le sexe, ce n'est pas quelque chose qui est donné à la naissance, le genre non plus, c'est vraiment ce qui compte, c'est ce qui est ressenti à l'intérieur de soi. Et seule la personne sait qui elle est. On n'a pas à lui imposer quoi que ce soit, c'est elle qui sait.
Anne, tu as une question?
Oui, je me demandais si ça va devenir un sujet à traiter lors de l'éducation sexuelle dans les écoles.
Mais probablement, parce qu'il y a quand même dans les écoles des interventions, par exemple, de Gris Québec ou ce genre de choses. Donc, c'est pas impossible qu'il y ait des transgenres qui aillent intervenir pour défendre cette position-là. Et dans les écoles secondaires publiques, je pense que c'est déjà abordé, le continuum de genre, puis ce genre de choses.
James.
Parce que là, au fond, on voit bien, tu nous montres à quel point c'est complexe comme sujet, et donc ça peut être abordé dans différents angles et de toutes sortes de manières. Là.
Oui, oui, tout à fait.
C'est là un peu, je ne dirais pas le danger, mais enfin la complexité.
C'est la complexité, et c'est aussi qu'en mettant ce ressenti de l'avant, on a toujours un revers de médaille énorme, c'est qu'on exclut la réalité physique. Si vraiment je ressens que je suis une femme alors que j'ai un corps d'homme, puis que je dois m'affirmer, parce que finalement c'est un peu une injonction à s'affirmer. On peut avoir un peu la même chose auprès des jeunes qui vont ressentir une attirance, par exemple sexuelle, pour des personnes du même sexe, qui vont avoir un peu une injonction à s'affirmer comme homosexuel. Puis on va les féliciter s'ils s'affirment. Il y a des, sur les réseaux sociaux, c'est sur YouTube par exemple ou ce genre d'endroit-là, mais c'est glamour, finalement, le phénomène transgenre. Tu t'affirmes, c'est merveilleux, magnifique. Oui, sois toi-même. Mais c'est quoi être soi-même? C'est ce qu'on ressent sans son corps. C'est ça qui est pas facile.
Et tu l'évoquais, il nous reste très peu de temps, Ariane, mais tu l'évoquais un peu plus tôt. Il y aurait lieu, certainement, de développer une quatrième voie, c'est-à-dire celle d'une meilleure acceptation à la fois du corps, de la réalité objective du corps, mais aussi de l'accueil du ressenti de la personne.
Tout à fait. C'est une voie qui n'est pas ouverte encore aujourd'hui, dans le milieu en tout cas de la recherche. Je sais qu'il existe peut-être des endroits où des psychologues qui invitent à cette démarche-là, mais ce n'est pas quelque chose qu'on recherche aujourd'hui ou qu'on veut approfondir. C'est d'arriver à concilier les deux. Oui, j'ai une réalité physique et oui, je ressens peut-être quelque chose qui ne correspond pas à mon corps. Comment est-ce que je peux accueillir ces deux choses-là? Comment faire en sorte que je comprenne aussi l'origine de ce trouble-là? Parce qu'on ne cherche pas à le comprendre aujourd'hui. C'est un peu même tabou parmi les chercheurs. Ce n'est pas important. Ce qui compte, c'est que la personne se sente bien. Et puis, le sens, ce n'est pas quelque chose sur lequel on s'attarde.
Ariane Beauferré, tu faisais le point sur la question du sexe et du genre. C'est un retour en quelque sorte sur ta revue littérature scientifique publiée dans le magazine Le Verbe. D'ailleurs, si vous voulez les références sur lesquelles s'appuie Ariane pour cette chronique, vous pouvez consulter tout ça sur letraitdunionverbe.com. Merci Ariane d'avoir été avec nous.
Merci beaucoup.
C'était On n'est pas du monde en version 15 minutes avec Antoine Malenfant et son invité.